Je vous propose la lecture d'un texte très court ce matin, seulement deux versets, mais qui suffiront amplement à alimenter notre méditation ce matin. Il se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, et ce seront les versets 23 et 24. 1 Corinthiens 10, versets 23 et 24. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Voilà une phrase qui claque, qui sonne bien, qui retentit. Une phrase qu'on retient facilement. Voilà une affirmation choc qu'on se plaît peut-être à répéter, à redire, voire peut-être à accommoder à toutes les sauces. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase répétée. Peut-être même vous-même l'avez-vous déjà dite et répétée dans telle ou telle circonstance, telle ou telle situation. Ça sonne bien, ça claque. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Lorsque cette phrase est utilisée, est-ce qu'on le fait à bon escient ? Essayons simplement un petit peu d'y réfléchir ce matin. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. En fait, c'est un slogan. Un slogan cité probablement par l'apôtre Paul. On peut imaginer, on aurait pu écrire, d'ailleurs c'est comme ça que c'est écrit dans certaines versions de la Bible, tout est permis, entre guillemets. Où Paul ici fait probablement référence à une phrase, un slogan que certaines personnes à Corinthe utilisaient peut-être à tort et à travers. D'autant que précédemment, au chapitre 6, Paul a utilisé la même expression, tout est permis, dans un contexte différent, et peut donc imaginer qu'ici, il cite un slogan qui était à la mode parmi certains personnages influents de l'église de Corinthe. C'était l'argument massue. Pour les super apôtres, vous savez, à Corinthe, il y avait des super apôtres, enfin, qui se disaient super apôtres, qui dédaignaient un petit peu l'apôtre Paul, et qui, eux, se disaient, nous, on est bien plus spirituels que lui ou que les autres, bien plus spirituels que le reste de l'Église, et nous, on a un slogan, tout est permis, donc vous ne pouvez pas nous juger, vous ne pouvez rien dire contre nous, puisque tout est permis. Voilà le slogan que l'apôtre Paul cite sans doute ici, et vous remarquerez qu'il ne le contredit pas. Il ne dit pas « tout est permis », vous dites « tout est permis », mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, il ne faut pas le dire. L'apôtre Paul ne contredit pas ce slogan, mais il le complète, il le précise. Tout est permis, d'accord, mais on ne peut pas en rester là. Tout est permis, c'est vrai, on est sous la grâce, on est libéré par le Christ. On n'est pas sous les interdits, les contraintes et les obligations. On n'est pas sous cette logique-là. On est dans la logique de l'Évangile, la logique de la grâce. Alors oui, c'est vrai, tout est permis. Mais tout n'est pas utile, précise-t-il. Parce que l'apôtre Paul, ici, va préciser que ce slogan est vrai en partie. Mais il est vrai seulement si on ne regarde pas plus loin que son nombril. Si on s'intéresse qu'à soi, qu'à ses propres possibilités, qu'à ses propres droits, sans tenir compte des autres. Et l'apôtre Paul ici précise, vous n'êtes pas simplement des individus, chacun pour soi, chacun de son côté. Vous appartenez à une communauté. Vous faites partie d'une église. Et dans cette perspective-là, il ne suffit pas de vous demander si c'est permis ou pas. Mais si c'est utile ou non. La question n'est pas simplement de savoir si j'ai le droit, si c'est permis pour moi, mais si c'est utile à tous. Ce que je dis, ce que je fais, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est constructif? Les versions plus anciennes parlaient d'édification. Est-ce que ce que je dis, ce que je fais, est utile, constructif pour la communauté, pour l'ensemble. l'apôtre Paul ne contredit pas ce slogan, mais il le revisite en le plaçant dans la perspective de l'Église, de la communauté. Et il nous invite à nous demander, non pas simplement, est-ce que j'ai le droit ou pas de faire ceci ou cela, mais quelles sont les conséquences de mes paroles, de mes actes? Quelles sont ces implications pour la communauté à laquelle j'appartiens? Plus encore, au-delà de la communauté à laquelle j'appartiens, comment mes actes et mes paroles sont-elles perçues à l'extérieur, par les gens du dehors? On voit que l'apôtre Paul a beaucoup cette préoccupation dans l'épître aux Corinthiens. Il faut dire aussi que l'église de Corinthe, ça ne devait pas être triste. Hein. Ça devait être un sacré bazar dans cette église. Et l'apôtre Paul devait vraiment recadrer les choses parce qu'il y avait de façon évidente, non pas seulement à l'intérieur de la communauté, mais vis-à-vis des gens du dehors, un contre-témoignage flagrant entre ce qu'ils prêchaient, l'évangile qu'ils annonçaient, et ce qu'ils vivaient entre eux et dans leur façon de vivre le quotidien. Alors c'est pour ça que l'apôtre Paul doit recadrer un petit peu les choses. Mais cette question de tout est permis, mais tout n'est pas utile, est particulièrement sensible lorsqu'on s'intéresse à des questions, on va dire, épineuses, délicates, compliquées. Et c'est le cas ici. Si vous lisez le contexte, ce qui suit, ce qui précède cette affirmation choc, vous vous rendrez compte que l'apôtre Paul aborde la question de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Alors peut-être que pour nous aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, consommer des viandes sacrifiées aux idoles, mais dites-vous bien que pour la première église, dans un contexte comme celui de Corinthe, contexte de paganisme, c'était une vraie question, compliquée. Est-ce qu'on peut ou non s'associer à des rites qui sont à la fois religieux et des rites sociaux, au cours desquels on consomme des viandes, de nourriture, qui préalablement étaient offertes à des idoles? Voilà le contexte dans lequel se situaient les premiers chrétiens. Est-ce que c'est envisageable ou non de le faire? Théologiquement, l'apôtre Paul est clair. Les idoles, c'est du vent. La viande, ça reste de la viande. Donc, il n'y a pas de danger en soi. Vous pouvez manger une viande sacrifiée aux idoles ou pas, ça reste de la viande. Ça n'y changera rien. Il n'y aura rien de magique qui va se passer. Théologiquement, il est très clair et il le dit. Simplement parce que les idoles, c'est des faux dieux. Ça vaut rien. C'est rien du tout. Mais la vraie question que pose l'apôtre Paul, c'est pas simplement est-ce que c'est permis, est-ce que ça change quelque chose, mais est-ce que c'est utile? Autrement dit, est-ce que, quelles conséquences ça a autour de moi? Quel sera l'impact autour de nous si nous consommons des viandes sacrifiées aux idoles, dans le contexte de l'épître aux Corinthiens? Et là, la question n'est plus simplement est-ce que c'est permis, mais est-ce que c'est utile? Et vous relirez, c'est intéressant, le contexte, la façon dont Paul présente les choses, il évoque des différentes possibilités en disant que dans certains cas, vous pourrez manger parce que les choses seront claires et il n'y aura pas de problème. Dans d'autres cas, il vaudra mieux vous abstenir parce que ce sera un contre-témoignage. Et ça pourrait être une occasion de chute pour votre frère ou pour celui de l'extérieur. En fonction des circonstances, vous ne pourrez pas simplement dire c'est permis de manger de la viande sacrifiée aux idoles parce que ça reste de la viande. En certaines circonstances, il faudra vous abstenir parce que ça pourrait être une occasion de chute pour un autre. Et il conclut ce passage, verset 32, « Ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, c'est-à-dire les non-juifs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. » Voilà la règle d'or de l'apôtre Paul. Alors, nous, on aimerait parfois avoir un discours un peu manichéen. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Soit c'est permis, soit c'est interdit. Bon, faut avouer que dans les évangéliques, on est assez fort pour ça, hein, en général. C'est tout noir ou tout blanc. On n'aime pas trop les nuances. C'est plus clair, au moins comme ça, on sait à quoi s'en tenir. Le problème, c'est que pour certaines questions, ça peut aller. Mais pour beaucoup de questions complexes, on est obligé d'adopter, des attitudes bien plus nuancées. Et que le discours « c'est tout noir ou c'est tout blanc, c'est permis ou c'est interdit » est un discours qui tape à côté et qui ne peut pas répondre au problème. Il y a des questions qui ne peuvent pas être réglées de façon aussi tranchée. Et il me semble que dans ce cadre-là, La façon dont l'apôtre Paul aborde ce slogan peut nous aider. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il nous invite à considérer notre façon de vivre en chrétien, inspirée par deux vertus en particulier, l'équilibre et la nuance. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Équilibre et nuance. Alors aujourd'hui, on est d'accord, je l'ai dit, c'est plus la question des viandes sacrifiées aux idoles qui pose problème dans nos églises, en France, au XXIe siècle. Ça ne veut rien dire pour nous. Mais des questions épineuses, on n'en manque pas. Des questions où il est difficile parfois de se prononcer, elles ne manquent pas. En matière d'éthique sexuelle ou familiale, en matière de questions de santé, de questions sur la façon de vivre dans le monde du travail, la gestion des nouvelles communications d'Internet, la question de l'accueil de l'étranger. Enfin, on pourrait multiplier des questions qui sont épineuses et compliquées et où il me paraît bien compliqué d'avoir un discours tranché tout noir ou tout blanc. Les questions sont bien trop complexes pour cela. À Corinthe, l'apôtre Paul devait lutter contre le laxisme ambiant, contre la justification de tous les excès, de toutes les débauches, au nom de la liberté et à coup d'arguments super spirituels. Voilà ce qu'il avait en face de lui. Et donc, il doit recentrer. Tout est permis, oui, mais tout n'est pas utile. Attention, faites pas n'importe quoi. Ailleurs, prenons par exemple l'épître aux Galates, l'apôtre Paul devait faire l'inverse. Face à des chrétiens qui se mettaient des chaînes et des contraintes incroyables, il devait leur rappeler la liberté que nous avons en Christ et qu'il ne faut pas se laisser enchaîner par quoi que ce soit. C'est pour la liberté, Galates 5, c'est pour la liberté que le Christ vous a libéré. Tenez donc ferme, ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Donc entre les risques extrêmes de laxisme et de légalisme, il s'agit de trouver de l'équilibre et de la nuance. Et dans les deux cas, notre slogan, revisité par Paul, fonctionne. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. La difficulté, on est d'accord, c'est le curseur. Où est-ce qu'on va placer le curseur dans ces questions complexes? La difficulté, c'est que si on mesure, si on fait donne une sorte de sondage ou d'enquête, on se rendra compte que certains mettront le curseur plutôt du côté du laxisme ou de la liberté, et d'autres plutôt du côté du légalisme ou de la discipline. Et que ça sera difficile de se mettre d'accord sur l'endroit précis où mettre le curseur sur telle ou telle question lorsqu'elles sont complexes, lorsqu'elles sont compliquées. D'où l'importance omniprésente, je crois, dans la bouche de l'apôtre Paul aux Corinthiens, dont l'importance fondamentale de la réflexion en commun, du partage, de l'ouverture à l'autre, du refus d'un jugement hâtif pour condamner ceux que l'on juge légalistes ou ceux que l'on juge laxistes, arriver à travailler ensemble pour comprendre que tout est permis et que tout n'est pas utile, et arriver à le définir ensemble, dans l'écoute, la réflexion et la prière commune. D'ailleurs, il n'est pas, c'est pas un hasard si l'apôtre Paul, dans le contexte ici, souligne la dimension de communion de l'Église lorsqu'il évoque au verset 17, donc c'est juste avant, cette phrase que nous mentionnons parfois lorsque nous célébrons la scène, puisqu'il y a un seul pain, Corinthiens 10, 17, nous, la multitude, nous sommes un seul corps, car nous partageons tous le même pain. Et ce rappel de la communion, qui indique que ce tout est permis, doit se vivre dans la communion des uns et des autres, et donc que tout n'est pas utile, elle nous permet de nous recentrer sur le Christ, lui qui est notre modèle, y compris dans cette réflexion que nous avons ce matin. Vous savez, l'apôtre Paul, bon, parfois il avait des phrases choc, hein, une expression qu'on retient bien, et il dit ailleurs qu'il s'est fait tout à tous. Autrement dit, il s'est toujours adapté dans sa conduite, y compris dans la liberté ou la restriction de sa liberté, avec les personnes auxquelles il s'adressait, avec qui il vivait. Il s'adaptait à ces gens-là. Finalement, un autre slogan de l'apôtre Paul, se faire tout à tous, n'est rien d'autre qu'une imitation du Christ. La réponse que Dieu a apportée pour notre salut, c'est pas le jugement à l'emporte-pièce, c'est pas la permissivité à l'extrême, finalement tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est l'incarnation. Le Fils de Dieu qui devient un homme, qui partage notre condition humaine, nos souffrances, nos limites, jusqu'à la mort, qui se fait tout à tous, qui devient l'un des nôtres, qui restreint sa liberté et son droit de Fils de Dieu en acceptant de devenir un homme comme nous, avec nos limites, nos souffrances. Et il comprend que ce qui est utile, alors là c'est plus même qu'utile, ce qui est vital pour l'humanité, c'est que le Fils de Dieu renonce à ses droits divins pour devenir un homme. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le droit divin du Fils de Dieu, le Tout-Puissant, il le laisse de côté pour humblement devenir l'un des nôtres. Il restreint sa liberté, son autorité. Dieu, en Jésus, s'est rendu solidaire de notre humanité. Il a sacrifié sa vie pour l'intérêt de tous. Finalement, quand on considère cette réalité-là, l'amour infini de Dieu en Jésus-Christ, le slogan tout à l'heure, le slogan des super spirituels, les super apôtres de Corinthe, « Tout est permis !» Ce slogan paraît bien mesquin devant le chemin que Jésus a emprunté. À se centrer uniquement sur ses propres droits, « Tout est permis !» On oublie les besoins des autres. Tout n'est pas utile. C'est bien donc un slogan qui choque, une phrase qui claque, une expression que l'on retient, mais c'est surtout une affirmation pleine de sagesse. C'est un vrai mot d'ordre que nous sommes invités à suivre et qui nous rappelle à la fois la liberté, la vraie liberté que nous avons reçue en Christ, tout est permis, et la solidarité que nous sommes appelés à vivre aussi en Christ, en tant qu'Église, en tant que communauté. Tout n'est pas forcément utile. Tout est permis car nous sommes libérés par la grâce, mais tout n'est pas utile parce que nous sommes membres d'un seul et même corps, le corps du Christ, et nous devons en tenir compte. Vous voyez qu'on est là bien au-delà d'un slogan, on est face à un défi que nous sommes appelés à relever, mais que nous ne pouvons pas relever chacun pour soi, mais que nous ne pourrons relever qu'ensemble, en vivant vraiment la réalité du corps du Christ. Amen.